avec Hélène Denis.
Bonjour à tous et à toutes. C'est le 26 mars 2026. Est-ce qu'on fait un vœu, Mathieu? 26 mars 2026.
Oui, ça me donne envie, je sais pas pourquoi, de manger de la saucisse.
Hein? Ah, à cause de du son 26 et 2026.
J'ai trop pris de café ce matin. Je suis vraiment désolé pour tout le monde. Je ne vais pas ouvrir souvent mon micro, si vous le permettez.
Mais hier, dans sa chronique nourriture, alimentation, Isabelle Falardeau a parlé des vertus du chou. Et le chou, qui est un produit chouchou de 2026, qu'on peut manger de toutes les façons. Il y a toutes sortes de sortes de choux également. Et elle m'a donné, elle, envie de manger de la choucroute et peut-être de la saucisse. Hein? Qui dit choucroute dit saucisse? Peut-être en fin de semaine, qui sait. Alors, là-dessus, je salue Yvan Deslauriers ainsi que Monique Kirouac qui sont au bout de leur siège ou au bout du fil, en tout cas. Bonjour à vous deux.
Oui, et on ne fera pas chou gras.
Bonjour, Monique.
Bonjour, Hélène.
Et puis bonjour, Yvan.
Bonjour, Hélène.
Présentez-nous donc vos sujets.
Vas-y, Monique.
D'accord. Alors, cette semaine, j'ai retenu un article qui a été publié dans l'édition de mars de la revue Québec Science.
Oui.
Parce que, on s'intéresse, Hélène, à la menace que constitue le torpillage de nombreuses agences statistiques américaines. Parce que c'est en lien, bien sûr, avec la recherche. Alors, on a des mises à pied massives, on en a entendu parler, il y a des sites web qui ont été fermés, puis aussi des enquêtes annulées. Alors, comment préserver les données vulnérables auxquelles on a peut-être accès encore? C'est ce que nous raconte la journaliste Raphaël, de Rome. Il y a des personnes qui se sont, je dirais, mis à la tâche pour développer des stratégies de sauvegarde. Alors, je vais vous raconter ça.
Merci. Yvan, une histoire, une belle histoire finalement d'un jeune amputé, son frère, des amis, du sport, des compétitions.
Oui, et on mélange tout ça dans le même chaudron. Et ça donne des belles jeunes personnes qui font du sport, qui font des événements importants, des événements qui sont exigeants, qui ramassent de l'argent pour aider le frère qui est amputé d'une jambe pour que lui-même puisse avoir des prothèses et que lui-même puisse faire des compétitions sportives. Ça a l'air un peu emmêlé quand je vous raconte ça comme ça, mais c'est vraiment ça et je vais clarifier ça dans quelques instants.
On compte sur vous, puis on en est sûr. De toute façon, on était capable de vous suivre. C'est pas votre première chronique et on n'en est pas à notre premier barbecue.
Oui, on a bien hâte au barbecue, d'ailleurs.
Oui, ça s'en vient lentement, mais sûrement. Alors moi, je suis encore sous l'effet bénéfique, thérapeutique même, du spectacle d'André Sauvé. Est-ce que vous avez déjà vu André Sauvé en spectacle, Monique ou Yvan?
Non, moi, je ne l'ai jamais vu, mais j'aime bien l'écouter. Je trouve que c'est un sage, survolté.
Ah, c'est bien dit, super qualificatif. Et vous, Yvan?
Oui, moi, je l'ai vu au moins à une reprise, peut-être deux même. Oui. Je le mets dans la même catégorie. C'est pas la même chose, là, mais il faut arriver à ce spectacle-là en forme. Il faut pas s'endormir, parce qu'il y a beaucoup de mots, beaucoup de paroles. Seul faisait le même genre de spectacle où il demandait à l'auditoire d'être attentif et d'être avec lui.
Oui, on peut dire ça. Je j'ai pas pensé à Sol en assistant à son spectacle, mais oui, dans le sens que c'est exigeant parce que si on veut pas perdre les idées, bien, il faut rester attentif. Moi, je suis arrivée assez fatiguée, mais j'ai pas perdu un mot. Je me suis laissée complètement happée par son spectacle et je me disais, quel homme brillant, quel homme sage, justement, drôle aussi, simple, naturel. Et justement, son spectacle s'intitule « Naturellement ». C'est un spectacle qui m'a ému, qui fait réfléchir, qui fait rire, qui fait sourire, alors que demander de plus. Son texte est bien écrit, ça n'a pas été écrit là, sur un coin de table, c'est riche, c'est rythmé, et la livraison est sensible. Il a vraiment ce talent-là. Il est charismatique. il danse même à un moment donné et c'est tout, c'est fait avec beaucoup, beaucoup de tendresse. J'avais l'impression d'être devant la version adulte du Petit Prince. Le Petit Prince qui a grandi et qui a trouvé des réponses. Alors, André Sauvé, vous le savez sans doute parce qu'il a fait plusieurs entrevues. Pas plusieurs, mais il en a fait quelques-unes. On sait qu'il vit maintenant dans un tout petit village dans les Alpes, à la campagne, et il a tiré plein de leçons de vie, justement, du fait qu'il vive dans la nature. Il partage avec nous ses expériences de jardinage et ces leçons-là, ben, il les partage avec nous. On est plutôt dans... On n'est pas dans le préchi-préchat. Non, n'ayez pas peur. On est plutôt dans des réflexions philosophiques, poétiques, drôlatiques sur l'art de vivre, l'art de lâcher prise, mais il ne parle jamais de l'expression lâcher prise, là, il est plus fin que ça. C'est un spectacle qu'il faut voir naturellement, c'est le titre, et c'est vrai qu'il nous donne envie de nous faire un jardin, d'entretenir notre potager ou notre jardin. AndréSauvé.com pour acheter vos billets et c'est un excellent investissement. Je vous le recommande très, très chaleureusement. Alors, on y va aussi avec les autres sujets du jour. Chronique Actualité internationale. François Larochelle sera avec nous, ancien diplomate canadien. Et puis, on part ça avec une chanson de Jimmy Hunt. We'll be right back.
Jimmy Hunt et sa chanson « Nos cœurs ».
Nos corps.
Nos corps, pardon.
Oui, mais il y a des cœurs dans le corps, dans les corps. Merci, Mathieu. À la une de la presse plus, Fonderie Horn, Québec jette du lest. C'est à lire sous la plume de Charles Lecavalier. La Fonderie Horn pourra émettre plus d'arsenic que prévu pendant plus longtemps. Une autorisation élargie à d'autres métaux lourds comme le plomb et le cuivre grâce à une modification législative inédite. C'est au-delà de ce qui a été présenté initialement, dit la santé publique, qui croit que Québec sous-estime le risque. Le jeu des négociations était bien entamé. Dans un bras de fer l'opposant à la multinationale Glencore, le premier ministre François Legault avait accordé un délai supplémentaire de 18 mois pour forcer l'entreprise à réduire ses émissions d'arsenic à une cible intérimaire de 15 nanogrammes par mètre cube à Rouyn-Noranda. Puis, en février, la multinationale avait menacé de fermer la fonderie Horn plutôt que d'y investir 300 millions de dollars. La conclusion de cette épreuve de force, Québec offrait 7 années de prévisibilité à l'entreprise pour atteindre son objectif de protéger la santé des citoyens ainsi que l'économie de l'Abitibi-Témiscamingue et assurer la stabilité des activités de la fonderie Horn. Le gouvernement a donc déposé, juste avant la semaine de relâche, un amendement à l'intérieur d'un projet de loi omnibus sur l'allègement réglementaire qui traite tant de la vente de boissons alcooliques que de l'industrie forestière. Mais que signifie exactement cet amendement très technique? La réponse provient d'une lettre de la directrice régionale de santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, Omobola Sobanjo, adressée au ministère de la Santé et datée du 20 mars. Elle écrit que l'analyse de l'amendement et des modifications proposées montrent qu'ils vont au-delà d'une simple prolongation de l'échéancier initial. En effet, il prévoit des reports additionnels s'appliquent à plusieurs autres métaux et repousse également l'échéance d'un autre plan d'action visant l'atteinte de la norme provinciale. Elle croit que le gouvernement du Québec sous-estime le risque sanitaire réel dans un contexte environnementale unique au Québec. Elle dit l'amendement repousserait également de 30 mois l'entrée en vigueur des normes concernant le dioxyde de soufre, les valeurs journalières associées à 6 métaux, cuivre, nickel, zinc, arsenic, cadmium, plomb et aux particules fines. La députée solidaire de Verdun, Alejandra Zaga-Mendez, estime que la modification législative va beaucoup plus loin que ce que disait le gouvernement. Du point de vue de la santé publique, le report de l'atteinte des cibles est susceptible d'entraîner des conséquences, notamment de prolonger les risques sanitaires déjà présents, d'amplifier certains impacts sociaux et psychologiques au sein de la population et de fragiliser davantage le lien de confiance entre la population, les instances décisionnelles et l'entreprise, ajoute la directrice régionale de santé publique, la docteure Sobanjo. Et pour Mme Zaga-Mendez, il s'agit d'un grand recul. À ses yeux, la conclusion est claire. Glencore a menacé de fermer la fonderie et Québec a plié. À la une du Journal de Montréal, c'est le sujet dont on va traiter ce soir à l'émission JE, des proches disparus, calvaire pour les familles. On en parle aujourd'hui dans le journal. Des familles, des personnes disparues vivent un véritable calvaire car elles sont parfois contraintes de payer pendant 7 ans les factures de leurs proches qui manquent à l'appel. 7 ans, c'est long, c'est même excessivement long, affirme le notaire Éric Lavoie, qui a déjà accompagné des familles en pareille situation. Il estime que ce délai devrait être révisé. Un exemple, Nicole Meunier de Sainte-Adèle, dans les Laurentides, est incapable de vendre le condo qu'elle possédait avec son fils Mathieu, disparu il y a 2 ans. Elle ne peut pas non plus accéder à son compte bancaire. C'est qu'au Québec, un disparu est présumé vivant durant 7 ans. Ce n'est qu'après ce délai que les proches peuvent demander un certificat de décès qui permet de régler la succession. Et puis, à la une du Devoir, un code postal, un médecin? Québec s'apprête à proposer vendredi un nouveau modèle de soins de proximité. Et puis, une photo de guerre à Gaza, un cessez-le-feu sous les bombes. La défense civile de la bande de Gaza a indiqué mercredi qu'une personne avait été tuée et plusieurs autres blessés dans une frappe israélienne près d'un camp abritant des déplacés à Deir al-Bala. Alors qu'un cessez-le-feu est censé être en vigueur depuis le 10 octobre dernier, au moins 689 Palestiniens ont été tués par Israël depuis cette date, selon le ministère de la Santé de Gaza.
L'autre hémisphère, une chanson de Marie-Pierre Arthur.
Yvan Deslauriers, c'est à vous.
Oui, bonjour.
Rebonjour. Alors,
rebonjour, effectivement. Donc, je vous parle d'une belle histoire. D'ailleurs, dans cet article-là, il y a une photo et les sourires des trois personnes sur la photo font du bien à une époque où on parle surtout de choses difficiles. Alors, ça m'a convaincu de partager cet article avec vous. Donc, ça s'intitule « Demi-Ironman et triathlon olympique, une enjambée pour la cause des amputés ». C'est un texte qui a été écrit par Justine Bouchard-Girard dans la presse du 22 mars. William Yell et son meilleur ami, Mathis Boulay, sont prêts à relever tous les défis pour Jacob Boulay, le frère amputé de ce dernier. Il y a quelques mois, les deux étudiants de 19 ans ont fondé un club de 30 athlètes déterminés à réaliser un triathlon olympique et un demi-Ironman. L'objectif, récolter 30 000 $ pour l'Association des amputés de guerre. Lorsque nous arrivons dans le sous-sol des Boulets, nous sentons que le sport prend une grande place dans la vie de famille. Une immense table de ping-pong trône au milieu de la pièce. Et à côté, il y a des vélos et des appareils d'entraînement. Des médailles décrochées par William Yell et Mathis Boulay sont également bien en vue. Les deux amis n'en sont pas à leur premier exploit sportif. L'an dernier, les deux jeunes ont réalisé, à seulement 18 ans, leur tout premier Ironman. Je vous expliquerai dans quelques instants qu'est-ce que ça implique. Et ce, au profit des personnes amputées. Ils ont récolté 3700 $. Cette année, ils voulaient que cette cause devienne un moteur pour toute une communauté d'athlètes. C'est ce qui les a poussés à créer, en novembre dernier, le club L'Enjambée. William dit « Toute notre préparation pour notre demi-Ironman de l'an dernier, ça nous a rapprochés des amputés. On a réalisé que s'entraîner pour une compétition de haut niveau, c'est la moindre des choses comparativement aux défis qu'ils doivent surmonter au quotidien. » Le fait que Matt et Will, c'est Jacob qui parle, courent pour la cause, je trouve ça le fun, c'est une belle initiative. Jacob Boulay est amputé de la jambe gauche depuis l'âge de 1 an. Il a maintenant 14 ans et il est né avec une malformation. Il avait un tibia plus court que l'autre. Ses parents ont donc opté pour l'amputation afin qu'il puisse porter une prothèse pour compenser la différence de longueur avec sa jambe droite. Le club fondé par William et Mathis compte 30 athlètes déterminés à repousser leurs limites au nom de l'Association des amputés de guerre. Un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux vétérans et aux amputés canadiens. Les membres de l'Enjambée, des sportifs de 17 à 22 ans, sont tous étudiants. Certains sont débutants et d'autres très expérimentés. Ils s'entraînent donc pour des distances différentes. En juin prochain, donc on est à tout fin pratique là, au mois d'avril, là, il reste quelques jours. Donc avril, mai, ça veut dire qu'ils ont 2 mois devant eux. Là. En juin prochain, à Mont-Tremblant, certains athlètes de l'Enjambée prendront le départ pour le triathlon de distance olympique, soit 1,5 km de nage. Pour moi, personnellement, ça me prend un flotteur pour faire ça. 40 km de vélo, et 10 km de course à pied. D'autres vont faire l'Ironman 70.3, aussi appelé demi-Ironman. Ça, c'est 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied.
C'est du sport.
Donc, la course à pied, là, c'est un demi-marathon, tout simplement. Oui, c'est de l'ouvrage. William Yell nous dit « On s'entraîne de 10 à 12 heures par semaine. Donc, environ 2 séances de natation, de course, de vélo, puis de gym. C'est vraiment le minimum pour participer à ce genre d'événement sportif. En plus d'être des étudiants athlètes, Mathis et William sont des entrepreneurs. Ils ont l'habitude de gérer des projets et de se donner corps et âme dans ce qu'ils entreprennent. À 13 ans, on a créé une entreprise de paysagement et de lavage de vitres. À 13 ans, mentionne William. Les jeunes adultes doivent maintenant concilier la gestion de leur entreprise avec leurs études et leur club de triathlon. Leur ami commun, William Lowe, s'est donc joint à l'enjambé pour alléger leurs tâches. Les jeunes hommes font aussi affaire avec un vidéaste pour filmer des capsules dans le but de documenter toute leur préparation et de sensibiliser les gens à la cause des personnes amputées. Les vidéos sont diffusées sur la chaîne YouTube du club, ainsi que sur TikTok et sur Instagram. C'est important pour nous que notre engagement sportif se transforme en un impact concret, soulignent Mathis et William, qui sont meilleurs amis depuis l'âge de 5 ans. Les dons recueillis par l'enjambée vont permettre à des gens comme Jacob de réaliser leurs rêves. L'adolescent se rendra bientôt en Espagne pour participer à une compétition de ping-pong, de tennis de table. Sans sa prothèse, tout cela ne serait pas possible. Les prothèses, ça nous aide à marcher et à vivre comme les autres, estime Jacob. L'argent récolté vise à financer l'acquisition de prothèses adaptées, mais aussi à soutenir les programmes de réadaptation et à offrir un accompagnement psychologique et des services d'entraide aux vétérans. Ayant un frère dans cette situation, j'ai fait quelques événements avec lui et j'ai reçu des messages d'amputés qui disaient être vraiment contents qu'on les soutienne, souligne Mathis. Ça me fait chaud au cœur de faire ça pour Jacob et les autres. Et ça, c'est l'article qu'on pouvait trouver dans la presse.
On leur souhaite de récolter leur objectif, hein, les 30 000 $ là, pour l'Association des amputés de guerre, parce qu'ils ont du cœur au ventre, ces gars-là.
Oui, il faut absolument faire connaître pas mal cette activité-là, cet engagement-là. Au moment où on se parle, je suis allé sur le site du club l'enjambée.ca. On a les informations qui tournent autour des deux événements. Les dons recueillis au moment où on se parle, c'est 6239 $ sur l'objectif de 30 000, donc il y a à peu près un cinquième de l'objectif qui est atteint. Et au fur et à mesure qu'on va s'avancer vers le mois de juin et vers les événements de course, ils vont sûrement pouvoir recueillir plus d'argent. Je termine en vous parlant toujours sur le même sujet, je vais faire un petit peu d'autopromotion. Il y a le balado Au-delà des limites à Canal M qu'on peut entendre en tout temps. Cette semaine, on a l'émission sur Cynthia Hamel-Gamache. Puis là, vous grattez peut-être la tête, c'est quoi le lien? Cynthia est entrepreneur et communicatrice. Elle a fondé à l'âge de 22 ans l'agence de communication Helios. Elle est née avec une malformation ayant entraîné l'amputation d'une jambe et d'un pied. Et elle a transformé cette réalité en moteur de résilience et d'engagement. Lors de cette entrevue-là, on a parlé aussi avec la présidente de l'organisme des amputés de guerre, qui nous a parlé du fonctionnement de l'organisme et de la part de Cynthia. Cynthia, elle a été, vous savez, les publicités qu'on voit à la télévision, là, souvent on voit un enfant ou un jeune qui parle des bienfaits d'avoir des prothèses. Cynthia, elle a déjà été une de ces enfants-là. Alors, si vous avez une chance d'écouter ça, c'est très instructif par rapport à la réalité que vivent des personnes qui sont amputées.
Une bonne émission en plus, animée par Yvan Deslauriers et Francine Forgette, Au-delà des limites. Merci beaucoup, Yvan, pour tout ça. Et au retour, on va écouter un extrait du plus récent album de Philippe B, La jeunesse est un autre pays. C'est un beau titre, ça. Et Monique sera avec nous pour sa chronique, une chronique qui parle de données, sauver les données en péril, un texte de Raphaël Delorme dans Québec Science. Restez avec nous.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Elle parle une langue aux accents qui me sont familiers, d'un pays qu'une nuit, dans un rêve, j'aurais visité. Je la prie de pardonner à l'avance mes maladresses. Elle sourit poliment, mais je crois qu'elle ne m'a pas compris. La jeunesse est un autre pays. Il habite une ville secrète, un monde parallèle. Une réalité qui possède sa logique à elle. Connaît les mots de passe et les formules de politesse qui ouvrent les salons décadents de l'aristocratie. La jeunesse est un autre pays. Ils sont beaux les enfants du nouveau continent de plastique. Ils se tiennent debout, dansent avec les mouvements tectoniques. Rame à contre-courant avant que l'horizon disparaisse. Oui, je sais que la vague s'en vient, mais moi je reste ici. La jeunesse est un autre pays. Ils sont toute une armée qui cherche à traverser la frontière. Nous sommes presque autant à souhaiter revenir en arrière. On peut changer les meubles de place, on peut changer d'adresse. Mais on ne revient pas sur ses traces au chemin de la vie. La jeunesse est un autre pays. La jeunesse est un autre pays. Elle regarde les beaux paysages dans les magazines, se projette en arrière dans des voyages qu'elle imagine. Elle revoit ce coin de paradis, cette vie de paresse, ne reconnaît pas les visages dans la photographie. La jeunesse est un autre pays. Il porte un nom de plume, un costume surdimensionné, et consomme la nuit des alcools de fruits mal aimés. Il embrasse la mort, aime de tout son corps et se blesse. On a tort de penser que je suis si différent de lui. La jeunesse est un autre pays.
Philippe B. qui chantait cette magnifique chanson tirée de son plus récent album, Cigale. Monique Kirouac, vous êtes là, Monique?
Oui, je suis toujours là, Hélène.
Alors, allez-y.
Alors, ben, écoutez, on l'a entendu, hein, aux États-Unis, 13 agences fédérales ont pour mission de récolter, d'analyser et de rendre disponible une foule de statistiques. Des données sur la météo, le taux de chômage et d'inflation, les statistiques sur la pollution, la population, la santé, l'éducation. Mais, parce qu'il y a un mais, est arrivé au pouvoir, on sait qui, DT. Ça a l'air d'un mauvais, comment dire, un engrais négatif, hein,
ouais.
Le DT.
Mais c'est à peu près ça.
Alors, dès son arrivée, ben, celles-ci ont vu leur mission attaquée. Il y a des sites web comme climate.gov qui ont été fermés. des agences torpillées. C'est le cas du National Center for Education Statistics, qui a perdu 95% de son personnel. Ouf, des collectes de données comme l'enquête nationale annuelle sur l'insécurité alimentaire ont tout simplement, Hélène, été annulées. Vous le savez certainement, ce n'est là qu'une des nombreuses mesures anti-science prises par le gouvernement américain. L'attaque contre les données est plus discrète que les congédiements massifs de scientifiques, l'ingérence politique dans le calendrier vaccinal ou les coupes d'au moins 1 milliard dans le financement de recherche. Mais elle reste tout de même inquiétante. Alors, un, elle prive les scientifiques, y compris au Canada et au Québec, ça aussi, hein, d'informations cruciales à leurs travaux. Deux, sans chiffres précis, personne ne pourra évaluer l'effet des politiques gouvernementales. Dans le texte, il y a 3 points de suspension. Ça en dit beaucoup, cette ponctuation. En réaction, il y a des groupes de bénévoles, majoritairement des bibliothécaires, travaillant dans les universités, qui ont entrepris de sauvegarder les données jugées les plus à risque de disparaître afin de les héberger sur des sites indépendants. Linda Kellum est directrice des données de recherche et de la recherche numérique pour les bibliothèques de l'Université de Pennsylvanie, qu'on appelle Penn State, qui est une université d'État. Elle est cofondatrice et membre du comité directeur de l'un de ces groupes, qui se nomme le Data Rescue Project. La plupart des membres du Data Rescue Project sont bibliothécaires dans les universités. Au quotidien, ce personnel aide les étudiants et les équipes de recherche à trouver les données officielles dont ils ont besoin pour leur recherche ou leurs travaux. Lorsque des données ont été retirées des sites web des Centers for Disease Control and Prevention, les bibliothécaires ont commencé à recevoir des courriels paniqués de leurs usagers. Peu de temps après, quand ils ont vu la fermeture du site web de USAID, l'Agence américaine de développement international fondée en 1961 et abolie en 2025 par M. T, ce groupe de bibliothécaires a décidé d'agir. Alors, vous vous demandez peut-être comment se fait la sauvegarde des données.
Bien oui.
Alors, plusieurs bénévoles ont téléchargé des fichiers manuellement, Hélène, en cliquant sur les liens un par un.
Un jeu de patience.
Et je souligne, c'est du travail bénévole, donc certainement en dehors de leurs heures de travail. Dans d'autres cas, même si un site web avait été fermé, sa base de données restait ouverte. On pouvait toujours en extraire les données. Dans plusieurs cas, ce ne sont pas les données elles-mêmes qui ont été retirées, mais des produits dérivés. Ainsi, les données sur le climat produites par la NASA ou la NOAA, c'est-à-dire le National Oceanic and Atmospheric Administration, n'ont pas été supprimées. Mais le gouvernement a fermé le portail Climate.gov, qui proposait des outils de visualisation et des articles pour rendre la science accessible au grand public. Les chercheurs pourront probablement toujours accéder aux données, mais le public a perdu un outil intéressant. Certains employés congédiés ont relancé le site à l'adresse ClimateUS, mais pour le moment, malheureusement, il n'est pas aussi riche que l'était Climate.gov. Une question sur la légalité de sauvegarder ainsi les données pour les rendre disponibles sur d'autres sites se pose. Il n'y a rien d'illégal, ne vous inquiétez pas, parce que les bibliothécaires s'intéressent uniquement aux données disponibles dans le domaine public. Il existe bien sûr des ensembles de données auxquels le personnel n'a pas accès, car ils contiennent des informations personnelles avec lesquelles on ne peut travailler, on le sait, la confidentialité des données personnelles, c'est très important. Ces données sont celles donc du public. En restreindre l'accès ou menacer leur intégrité au point où on ne peut plus s'y fier porte atteinte à la démocratie. Alors, on peut se demander comment les gens réagissent à ces attaques contre les données gouvernementales. On peut facilement imaginer que la communauté de recherche en sciences, entre autres en sciences sociales, est mobilisée. Ont été sauvegardés 1 600 jeux de données depuis le début de l'année. Plusieurs médias ont couvert les efforts. Le défi est de sensibiliser les responsables politiques. Mais il y a tellement de choses qui se passent, de feu à éteindre partout. 3 points de suspension, n'est-ce pas?
Ouais.
Maintenant, il faut planifier l'avenir. On ne pourra pas toujours compter sur le travail bénévole. Et d'ailleurs, le groupe Data Rescue Project va probablement mettre fin à ses activités. Mais, avant, ce groupe veut créer une boîte à outils pour aider d'autres personnes à mettre en place quelque chose de similaire en cas de besoin. On nous relate que le Data Rescue Project a lui-même beaucoup appris du projet SUCHO, S-U-C-H-O, qui tient pour Saving Ukraine Cultural Heritage Online, en français, sauvegarder le patrimoine culturel ukrainien en ligne. Il y a donc une belle solidarité internationale qui se crée sur ce plan-là. Mais pendant ce temps-là, que se passe-t-il au Canada? Eh bien, plusieurs bibliothécaires et universitaires ont participé à l'effort américain. Mais la communauté regroupée au sein du Canadian Public Data Rescue Initiative s'attelle maintenant à mettre en place une structure de sauvegarde de données publiques canadiennes. Question d'être prête si le problème survient à Ottawa. Alors, on n'est pas à l'épreuve de cette réalité. Si je peux, Hélène, deux petites minutes.
Oui, vous pouvez.
Je soulignerai une lettre d'opinion qui a été publiée hier, mercredi 25 mars, dans la section d'opinion de la Presse Plus par le recteur de l'université, Daniel Jutras. Cette lettre d'opinion apporte une lumière positive, je trouve, sur Montréal. On se rappelle qu'il y a les cinéastes Chris Lavis et Maciek Sterbovitsky qui ont remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation aux Oscars il y a 2 semaines, je pense, hein? Qui s'intitule « La jeune fille qui pleurait des perles ». Je vous invite, je vous en prie, allez voir ce beau petit film de 17 minutes sur le site de l'ONF, c'est facile d'accès, c'est magnifique.
Oui, à voir et à revoir, c'est magnifique et c'est fascinant aussi.
Oui, tout à fait. Et il y a aussi, on en a parlé la semaine dernière, le professeur Gilles Brassard de l'Université de Montréal qui a été honoré du prix Turing aux côtés du physicien américain Charles H. Bennett. Eh bien, il y a de quoi relativiser le sentiment souvent répandu sur l'état de la métropole. Montréal, c'est pas juste des nids de poules et c'est pas juste des cônes oranges. C'est aussi un terreau fertile pour les idées les plus audacieuses. Et la présence de grandes universités y assure une source continue de talent et d'énergie créatrice. Un dynamisme qui vient consolider plusieurs florons économiques et culturels. Et il nous dit, le dernier paragraphe de son texte, « Au-delà de la fierté qu'inspire un Oscar ou un prix Turing, ces succès nous rappellent qu'ils ne doivent rien au hasard. Ils sont le fruit d'un écosystème qui s'est patiemment construit ici, à Montréal, ville plurielle, doublement insulaire par sa géographie et par sa francophonie que l'on se doit de protéger, j'ajouterai. Un écosystème qui doit absolument être préservé pour que Montréal soit toujours grand, comme un désordre universel, ce que disait Gaston Miron. C'est dans ce terreau, à l'échelle humaine, toujours un peu chaotique, que poussent les découvertes comme la cryptographie quantique de Gilles Brassard ou des œuvres inimitables comme celles de Lavis et Tcherchervski.
L'oscarisé, voilà. Oui. Un des oscarisés. Ça fait beaucoup de bien d'entendre ça. Merci beaucoup, Monique. Et merci aussi à Daniel Jutras. On peut lire son texte dans la presse d'hier.
Descends l'escalier, t'arrives en bas, la rue est là. C'est plein de bruit, d'odeur et de fruits défendus.
trottoir, ça déboule de tous les côtés. Tu te surprends à regarder. Un bas de soie qui file au pied d'une inconnue. T'en es tout ému, t'as pas tout perdu. Allez, top là dans ma main, top là, top encore une fois.
Michel Fugain, Viva la vida.
Oui, Fugain qui est au Québec, il entreprend aujourd'hui même à Sainte-Thérèse une belle tournée québécoise qui va le mener dans une douzaine de villes jusqu'au 3 mai. Il a 83 ans, bientôt 84, Michel Fugain est toujours en forme, toujours en voix et il va donner une série de spectacles, 10 représentations à la 5e salle de la Place des Arts à Montréal à partir du 31 mars. Là-dessus, on y va avec Yvan et Monique, des brèves qui sont un peu plus longues que d'habitude. Adapte ta vie et Altergo, Yvan lance une campagne.
Oui, une campagne pour... C'est sur le site d'Altergo qu'on peut trouver ce communiqué de presse. Il lance une campagne pour promouvoir l'activité physique inclusive. Donc, c'est Adapte ta vie et Altergo Événements, deux organismes qui œuvrent pour améliorer la participation sociale et le bien-être des personnes ayant une limitation fonctionnelle à travers le loisir et le sport, qui combinent leurs forces pour rendre l'activité physique plus inclusive partout au Québec, avec un site qui s'appelle Interactif, INTER-ACTIF. Rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, le programme Interactif a comme objectif de fournir des ressources informatives et ludiques montrant comment l'ensemble des jeunes, peu importe leur habileté, peuvent bouger dans un esprit d'inclusion et de plaisir. D'abord destiné uniquement aux enseignants et enseignantes d'éducation physique dans les écoles du Québec, Interactif vise maintenant aussi les parents et l'ensemble des personnes intervenant auprès de jeunes en situation de handicap, dont le personnel de service de garde. Selon Maxime Gagnon, qui est le PDG d'Altergo, on le voit dans nos programmes avec Altergo Événements, dont le défi Altergo. Quand les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle sont plus actifs, ça les aide à développer leur estime de soi, ça contribue à leur bien-être et ça leur donne un sentiment d'accomplissement. Alors, j'arrête ici pour l'instant et à ma deuxième brève, je vais vous faire un petit tour de la page web d'Interactif.
Parfait. Monique, la santé dans l'assiette?
Oui, alors je vous parle d'un nouveau livre, Hélène, co-signé par la nutritionniste Anne-Julie Tessier, qui est professeure au département de nutrition de l'Université de Montréal et chercheuse à l'Institut de cardiologie de Montréal depuis 2024. Et l'autre auteur, c'est Catherine Saint-Laurent, l'actrice, la comédienne que l'on connaît bien.
Bien oui, qu'on voit dans Antigang, notamment de ce temps-ci.
Oui, exactement. Alors, ce que souhaite Mme Tessier, c'est rendre la science nutritionnelle plus accessible au grand public. Je la cite, elle nous dit « Les gens sont submergés par des informations contradictoires en ligne. Je voulais offrir au grand public de la vraie information en nutrition basée sur les dernières recherches. » Alors, au-delà des publications scientifiques, la jeune chercheuse souhaitait faire une différence dans l'assiette des gens. Donc, c'est pourquoi elle a contacté Catherine Saint-Laurent, qui publiait déjà de nombreux contenus culinaires, semble-t-il, sur ses réseaux sociaux.
Oui, elle aime beaucoup manger.
Oui, mais elle est très mince quand même. Hein. Donc, elle mange bien. Le titre du livre, Hélène, « Mange ta vie ». Et en tout petit sous-titre, « Science, saveur et santé ». C'est aux éditions Cardinal. Ce livre se divise en quatre grands chapitres. Santé à long terme, santé musculaire, santé cognitive et santé mentale. En fait, c'est nous intégralement, quoi. Alors, au début de chaque section, Anne-Julie Tessier partage les dernières avancées en recherche, autant de ses propres travaux que de l'international. Dans les dernières années, elle a exploré le lien entre la façon dont nous mangeons et notre qualité de vie, parce que si l'espérance de vie augmente de plus en plus, mais l'espérance de vie en santé, elle, ne s'améliore pas. Alors, si on sait bien que manger peut avoir une influence positive sur la santé, ben encore faut-il le transposer dans notre quotidien autour de la table. Alors, plutôt que d'être dans une logique de soustraction, les autrices appellent à l'abondance de couleurs et de variétés. Fruits et légumes, grains entiers, noix, huile d'olive. Au-delà des modes et des recettes miracles, le livre rappelle l'importance d'une assiette équilibrée. Alors, sur le site des libraires, on nous dit que c'est une œuvre originale et vivante qui rassemble des astuces brillantes et des recettes inspirées. Alors, mange ta vie, science, saveur et santé.
De très belles photos également qui accompagnent ces textes intéressants. Signé Anne-Julie Tessier et puis Catherine Saint-Laurent, Mange ta vie. Merci pour cette super suggestion. Livre qui coûte un peu cher, mais je pense qu'il vaut son pesant d'or, 42,95.
Oui, je pense que oui. Malheureusement, il n'est pas en version papier, version électronique, je crois.
Hein.
Oui,
mais moi, j'aime bien ce genre de livre en version papier.
Oh, vous avez raison, Hélène, je suis tout à fait d'accord avec
vous. Aux éditions Cardinal, qui proposent souvent, la plupart du temps, toujours même, des livres de grande qualité. Et puis, Yvan, ben, continuez avec votre tour, là.
Oui, à partir du site Altergo, il y a un lien qui nous amène au programme interactif. Et dans cette page-là, on a accès à un guide complet d'informations et d'activités. Les fiches d'activités incluses dans le guide ont été extraites et rendues accessibles en version individuelle, accompagnées de leurs capsules vidéo dans la section « Idées d'activités physiques pour tous ». Quelles sont les activités qui sont proposées? Plusieurs activités de manipulation et de contrôle d'objets, de locomotion et de stabilité. J'en prends une au hasard qui est le rebond, qui est manipulation et contrôle d'objets. Le rebond, c'est tout simplement, en équipe de deux, de faire des passes avec un rebond. On peut mettre un banc dans le milieu, puis là on envoie une balle qui passe par-dessus le banc ou qui rebondit sur le banc et l'autre personne doit l'attraper. Ce qui est intéressant, c'est les commentaires qui sont ajoutés pour inclure tous les autres enfants. Alors, ça nous donne des trucs si l'enfant est en fauteuil roulant. Par exemple, si le fauteuil limite le mouvement, s'asseoir sur le bout ou faire une rotation du tronc pour pouvoir lancer la balle. Si l'enfant a besoin d'aide ambulatoire, on peut opter pour une balle plus petite et plus lourde pour faciliter le moteur, le contrôle moteur. Avec déficience motrice, on peut utiliser des poches de fèvre, des foulards ou des balles plus molles si l'appréhension est difficile. Et avec une déficience visuelle, on peut utiliser du matériel bruyant, des balles ou des ballons avec des clochettes. Alors, vous avez ça pour de nombreuses activités. Donc, autant parents que personnel de service de garde, peu importe, on peut donc créer des activités qui sont adaptées pour chacun des enfants, peu importe les limites avec lesquelles ils vivent.
Ah oui, il y a plein de suggestions, outre le rebond, le tape-compte, mais sans rien à voir avec les comptes qu'on trouve en ville, partout.
Tout à fait. Et ça nous fait réaliser comment la compétition n'est pas si importante que ça, mais l'important, c'est de trouver des façons pour que chacun puisse y avoir du plaisir.
Parfait. Encore une fois, température et temps, plusieurs confondent ces deux mots, Monique, en terminant.
Bien, je vais faire une petite incartade encore, Hélène.
C'est parce qu'il reste une minute.
Oui. Tout simplement pour vous dire, la semaine dernière, j'étais absente parce que je participais pour la dernière partie.
Oui, c'est vrai.
Je participais à un comité de lecture dans le cadre d'un événement qui s'appelle Un livre, un village, qui en est à sa 16e édition. Je ne peux pas vous révéler aujourd'hui le gagnant parce que ce sera fait le 26 avril. Mais on a décidé de communiquer nos coups de cœur à notre public qui sera là le 26 avril. Et je me permets de le faire.
Permettez-vous?
Alors, ça finit quand? Toujours d'Agnès Gruda. Debout dans l'orage, Dominique Demers. C'était ça, ou mourir, de Télisson Aurélien. Le quatrième, Parfum des Craquias, de Michel Desautels. Et finalement, Je n'ai personne à qui dire j'ai peur, de Véronique Marcotte. Ce sont nos cinq coups de cœur. Je vous rappelle que nous avons une invitée le 26 avril, qui est Claudia La Rochelle, qui nous parlera de son métier de critique, et que moi-même, je lirai un extrait du gagnant de cette année. Alors voilà, c'était cinq personnes qui ont lu à peu près une vingtaine de livres québécois cette année.
Bien, à suivre. Merci beaucoup pour ce partage, Monique. 26 avril 2026, vous allez revenir là-dessus avec tous les détails et la personne qui va remporter les palmes ou la palme. À bientôt!
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Qui
Panda et sa chanson « Jeu dangereux ».
Une nouvelle guerre au Moyen-Orient a commencé il y a maintenant presque un mois par une attaque israélo-américaine sur Téhéran. Elle s'est étendue assez rapidement à pratiquement toute la région, en particulier dans les pays du Golfe et au Liban. Elle a déjà des impacts économiques, humanitaires et politiques majeurs. Et j'en parle avec François Larochelle. C'est surtout lui qui nous livre une chronique. C'est lui le spécialiste, ancien diplomate canadien. Bonjour François.
Bonjour.
Alors, vous dites que c'est l'opération dite « Fureur épique ».
Oui, qui, depuis le 28 février, là, les Israéliens, les États-Unis pilonnent sans relâche l'Iran. Ils ont éliminé de nombreux chefs politiques et militaires, dont le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, et visé des dizaines de milliers de cibles militaires et d'infrastructures. En fait, en Iran, on ne connaît toujours pas l'étendue exacte des dégâts matériels. Ils doivent être massifs et on parle maintenant d'autour de 2000 morts en Iran. Et on assiste à une escalade parce que malgré les annonces victorieuses à répétition de Trump, les Iraniens ne lâchent pas le morceau, loin de là. D'ailleurs, tous les pays du Golfe ont subi une riposte intense de missiles et de drones iraniens visant les bases américaines et des installations énergétiques. Les missiles iraniens ont fait aussi pas mal de dégâts en Israël. Les Iraniens ont provoqué l'arrêt de sites de production de gaz et de pétrole dans les monarchies de la région. Ils ont aussi, surtout, perturbé l'activité économique mondiale en bloquant le détroit d'Ormuz, qui constitue une voie de passage stratégique où passe 20 % du trafic de pétrole mondial.
Les attaques d'Israël ont repris sur un autre front contre le Hezbollah au Liban.
Effectivement, après que cet allié de l'Iran l'ait visé avec des roquettes et des drones, la riposte de l'État hébreu n'a depuis lors plus de limites. Elle a semé destruction et chaos un peu partout au Liban. Il y aurait plus de 1000 morts libanais et 1 million de déplacés. Israël veut désormais occuper une zone tampon au sud du Liban, vidé de ses occupants et soumis à des démolitions systématiques.
Alors que Benjamin Netanyahou bénéficie du soutien de l'opinion publique israélienne dans cette énième guerre, le contexte politique est tout à fait différent à Washington.
Oui, car cette guerre, selon les sondages, n'est pas du tout populaire aux États-Unis. Depuis, l'augmentation du prix du pétrole va énerver et énerve déjà Trump, ce qui va faire gonfler l'inflation. Les électeurs de Trump avaient voté pour lui car il promettait de baisser l'inflation et que le pays n'allait pas s'impliquer dans des guerres coûteuses.
Il en a promis des des choses.
C'est oui, effectivement, et c'est tout le contraire qui se produit actuellement.
Et au Canada, qu'en est-il de la position canadienne?
Oui, bon, lors de sa première déclaration suite à l'attaque sur l'Iran, le premier ministre Carney a rapidement appuyé l'administration Trump. Puis, dans une nouvelle déclaration le 3 mars, il a rétro-pédalé. Il a alors appelé toutes les parties au conflit au respect du droit international et a procédé à une désescalade et s'en remettre à la diplomatie. Et puis alors que le gouvernement avait écarté toute idée d'engager le Canada dans un conflit au Moyen-Orient, maintenant on se dit prêt avec un groupe de pays à collaborer pour le libre passage dans le détroit d'Ormuz, mais sans donner de détails. Alors c'est plutôt confus tout cela.
Le régime iranien tient bon jusqu'à maintenant.
Oui, il est sûrement moché, mais il apparaît toujours en place. Il remplace ceux qui sont assassinés. Ainsi, Mojtaba Khamenei a succédé à son père Ali Khamenei comme guide suprême qui a été tué au premier jour de la guerre actuelle. On dit ce nouveau Khamenei très conservateur et proche des gardiens de la révolution, mais on ne l'a pas vu depuis sa nomination.
Mais pour l'instant, en matière de guerre conventionnelle, l'Iran perd tout en gagnant sur d'autres plans.
Oui, car toute la stratégie iranienne repose sur la guerre qu'on appelle asymétrique, qui rend la poursuite des opérations de plus en plus coûteuse pour la partie américaine et les Israéliens. L'exemple des drones iraniens Shahed à 20 ou 40 000 $ chacun, qui mobilisent des intercepteurs qui coûtent entre 1 et 3 millions de dollars chaque. Il y a aussi la question de l'épuisement éventuel des munitions, ce qui n'est pas seulement un problème pour la partie iranienne. Selon des experts, après leur usage intensif depuis le début de la guerre, les antimissiles américains Patriot, mais aussi les missiles de croisière Tomahawk, se rapprocheraient de la rupture de stock. La guerre coûte une fortune aux États-Unis, mais aussi à Israël. Le ministère de la Défense américain veut maintenant obtenir 200 milliards de dollars supplémentaires.
Puis il y a aussi le blocus iranien du détroit d'Ormuz.
Oui, l'Iran tire un avantage maximal de sa géographie avec le détroit d'Ormuz et le golfe Persique. Avec ses ultimes atouts et malgré son déséquilibre militaire, le régime iranien peut se livrer à un chantage efficace, le doigt sur une artère vitale de l'économie mondiale. Avec pour conséquence, comme on l'a dit, de faire monter le prix du pétrole, mais aussi de risquer une crise économique mondiale majeure.
Et la suite?
Excellente question. La réponse se trouve dans le cerveau confus et dangereux de Trump, car sa guerre contre l'Iran ne se déroule pas du tout comme il le souhaitait. Ainsi, les États-Unis pensaient qu'un mécanisme inéluctable serait enclenché avec la décapitation, comme ils appellent, rapide d'une partie de la direction politique de l'Iran. Un processus qui, croyait-il, allait motiver la révolte de la population. Mais pour l'instant, celle-ci se met plutôt à l'abri comme on la bombarde. Pour atteindre l'objectif de faire tomber le régime, il faudrait envoyer des troupes au sol. On assisterait à un engrenage bien connu dans cette région pour les Américains, comme on l'a vu en Irak ou en Afghanistan. Trump et ses sbires disent que cela ne se fera pas, mais on verra, car actuellement, ils dépêchent des Marines et des parachutistes dans la région. En nombre insuffisant pour prendre l'Iran, probablement, mais assez pour faire des opérations comme prendre les installations pétrolières vitales de l'île iranienne de Kharg.
En même temps, il y a des médias américains qui avancent que l'administration de Donald Trump a fait passer un plan de paix en 15 points à l'Iran par l'entremise du Pakistan, qui entretient de bonnes relations avec les deux parties.
Ouais,
est-ce une fake news?
C'est difficile de savoir, mais les États-Unis, dans ce plan, en fait, apparemment proposeraient un cessez-le-feu d'un mois, le temps que les autorités iraniennes étudient leurs demandes. Parmi ces 15 points, certains concerneraient le programme nucléaire iranien, les missiles balistiques, d'autres imposeraient l'abandon du soutien à des groupes comme Hezbollah ou le Hamas, et que le détroit d'Ormuz reste ouvert à la navigation maritime. En contrepartie, l'Iran obtiendrait une levée des sanctions internationales et un soutien pour son programme nucléaire civil. Trump affirme que des négociations constructives se déroulent avec les Iraniens, mais ces derniers continuent de démentir. Ils auraient en fait déjà rejeté ce plan de Trump. Bon, alors qui croire? Comme on sait, Trump est un menteur patenté. Peut-être ne veut-il que ralentir la hausse du prix du pétrole et enrichir ses proches à la bourse avec ses annonces fluctuantes qui changent d'heure en heure. Mais les Iraniens négocient aussi peut-être en secret.
Donc, à moins que de réelles négociations se déclenchent, on peut craindre que ce conflit s'éternise.
Malheureusement, car Trump a intérêt, lui, à terminer rapidement cette guerre qui est catastrophique jusqu'à maintenant pour les États-Unis. Ce n'est pas le cas de Téhéran qui veut faire monter les enchères, ni d'ailleurs pour Netanyahou qui a habilement manipulé Trump. Il est difficile d'envisager dans ce contexte une solution rapide au conflit car il est devenu très complexe et les Iraniens n'ont aucune confiance en Trump. Car au cours des derniers mois, les Iraniens s'étaient engagés sérieusement dans des négociations avec Washington et à chaque fois, les Américains et les Israéliens les ont attaqués après 2 ou 3 jours de discussion. En terminant, je dirais qu'en attendant que cette folie se termine, la population américaine pourra toujours réfléchir sur les conséquences d'avoir élu Trump en remplissant le réservoir de leur gros camion pick-up.
Bon, alors, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais vous terminez souvent avec une pointe d'humour et ça nous fait du bien. Parce qu'il n'y a rien de drôle là-dedans. Là. C'est super inquiétant. Vous disiez que dans votre vie de diplomate, dans votre vie tout court, vous n'aviez jamais vu quelque chose d'aussi épeurant que ça.
Non, là. C'est vraiment parce que ça peut déclencher une crise économique mondiale et ça peut se faire très rapidement. Si Trump commence, comme il l'a menacé, de le faire, de bombarder les installations, les infrastructures énergétiques iraniennes, ben les Iraniens vont se venger, vont faire sauter les autres des pays producteurs de pétrole et de gaz autour, ce qui va faire là, qu'il y aura plus, il va clairement y avoir une pénurie de pétrole et de gaz sur le marché international. Et puis, il faut penser aussi aux dégâts environnementaux que cette guerre crée déjà et que risque de créer davantage si ça continue. Là,
et les pertes de vies humaines, évidemment.
Oui, bien
plan,
sûr,
là.
Et les destructions d'édifices, où des civils, des habitants normaux là, habitent.
François Larochelle, ancien diplomate canadien, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Saturé de mots qui résonnent et qui font toujours dans le désordre. You repeat things I don't understand. Je te blesse à ton mort. Les doigts sans vouloir valoir la peine pour que nos ventes se tordent. On se reverra. You really should have seen it coming.
you saw me as a woman. I'm a superwoman without you.
Léonie Gray, sa super chanson Superwoman.
Oui, merci. La Fondation Autiste et Majeur est honorée d'annoncer le déploiement prochain de 3 nouveaux espaces autistes et majeurs québécois à Notre-Dame-des-Prairies, à Shawinigan et à son Saint-Augustin-de-Desmaures. Cette annonce marque l'aboutissement d'initiatives rendues possibles grâce à la contribution majeure d'un précieux partenaire de la Fondation, Québécois, qui a offert un don $1 million en 2021 pour soutenir le développement de centres de jour pour les personnes autistes de 21 ans et plus. Cette collaboration a permis à la Fondation d'agir concrètement pour offrir aux adultes autistes et à leurs familles des milieux de vie stimulants et profondément humain dans un contexte où l'accès aux services diminue considérablement dès l'atteinte de la majorité, alors que les besoins restent considérables. Les 3 nouveaux espaces québécois annoncés le 24 mars dernier s'ajouteront à celui inauguré au Centre à pas de géant 2023 et viendront offrir encore plus de milieux adaptés pour les adultes autistes à travers le Québec. Les futurs espaces québécois seront déployés dans les centres Espace Vie TSA à Saint-Augustin-de-Desmaures, les Horizons ouverts à Shawinigan et la Société de l'autisme Région Lanaudière à Notre-Dame-des-Prairies. Le communautaire About, un effet instantané dans plusieurs milieux. Les effets de la grève lancée lundi dans le cadre du mouvement Le communautaire About se font déjà sentir jusque dans la vie de Sylvie Jalbert, écrit Suzanne Colpron dans la presse d'aujourd'hui. À Shawinigan, cette femme de 62 ans handicapée dépend depuis 9 ans de services communautaires pour se nourrir et se rendre à ses rendez-vous médicaux. Depuis le début de la mobilisation, tous ces services sont suspendus. On n'a pas de distribution alimentaire, je n'ai pas mes suivis parce que les accompagnateurs sont tous en grève. Moi, ça me touche à tous les niveaux, dit-elle. Malgré tout, elle appuie le mouvement. Si on ne les avait pas, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui. Ils m'ont prise détruite, ils ont fait de moi un être humain, je leur dois ma vie. Dans la majorité des 1600 organismes en grève pour près de 2 semaines, les activités sont suspendues ou réduites. Accompagnement médical, soutien à domicile, popote roulante, groupe d'entraide, services aux personnes en situation d'itinérance ou aux femmes victimes de violences. Les usagers sont soit redirigés vers le réseau public, soit contraints d'attendre. Certains services essentiels ne sont pas fermés, sinon les gens sont préparés à aller vers des services publics pour répondre à leurs besoins, ou bien ils vont devoir attendre, résume Mathieu Gélina, directeur général du Centre d'action bénévole Trait d'Union à Shawinigan et instigateur du mouvement. Ce déplacement de la demande n'est pas sans conséquences. Ça met de la pression sur le système public, souligne Sophie Tétrault-Martel, intervenante au Centre des femmes de Longueuil et co-porte-parole du mouvement. À Longueuil, un quartier général a été mis en place à l'église Saint-Marc. On y sert une soupe populaire, mais on trouve aussi des espaces de discussion, des ateliers d'éducation populaire et des activités de mobilisation. Je vous dirais que les personnes qui bénéficient de nos services sont dans la rue avec nous, assure Mme Tétrault-Martel. Cette réalité touche aussi d'autres milieux, notamment les jeunes. À Victoriaville, Marianne Cusson, 17 ans, fréquente la maison des jeunes Trait d'Union. C'est vraiment un milieu de vie où on peut rencontrer nos amis. Là, ça nous empêche de pouvoir faire ça et on n'a plus accès aux intervenants pendant les soirées ou les midis. Malgré les impacts, Marianne appuie le mouvement. En 5 ans, dit-elle, elle a vu une dizaine d'intervenants quitter leur emploi à la maison des jeunes. Les conditions de travail sont difficiles et le salaire aussi. Le mouvement, le communautaire About, n'est pas né des grandes organisations nationales, mais de la base. Ce sont les organismes de proximité qui ont lancé ça, explique M. Gélina, qui a lancé les premières démarches à Shawinigan en Mauricie l'automne dernier. En quelques mois, la mobilisation s'est étendue aux 17 régions du Québec. L'objectif n'est pas seulement de perturber, il s'agit aussi de rendre visible un travail souvent mal compris. On se rend compte que les gens ne savent pas vraiment ce qu'on fait. Pourtant, 1 personne sur 3 au Québec reçoit ou recevra des services d'un organisme communautaire. Les revendications sont connues. Plus de financement, plus de prévisibilité et de meilleures conditions de travail. Home de Michael Bublé. Ça vous dit quelque chose? Il y a une reprise qui a été faite avec Michael Bublé qu'on entend en français accompagnée de Roxane Bruno. La voici, cette chanson.
Un autre jour d'été qui vient que son aller entre Paris et Rome, mais moi je rentrerai.
Même si je suis entouré, tu hantes mes pensées. Je me sens toujours seul, je voudrais rentrer à tes côtés.
And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you?
Michael Bublé et Roxane Bruno. Une nouvelle qui va faire plaisir à plusieurs personnes. Desjardins ramène une version du solde en temps réel pour ses cartes de crédit, se disant conscient que les récents changements ont pu susciter de la confusion chez ses membres et ses clients. Desjardins a annoncé ramener l'option de voir son solde de carte de crédit en temps réel. Certaines améliorations seront apportées dans la vue détaillée de la carte de crédit au cours des prochains jours, a déclaré mercredi la coopérative par voie de communiqué. Concrètement, les utilisateurs vont continuer de voir par défaut le solde comprenant uniquement les transactions facturées, mais quand ils cliqueront sur leur carte, un crédit utilisé estimé sera désormais affiché. Ce montant présentera en temps réel l'ensemble des transactions et des paiements sur la carte, facturés ou non, explique l'institution qui précise toutefois que cette somme ne constitue pas un solde officiel. Alors que les élus québécois s'apprêtent à voter une motion demandant sa démission, le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, se dit profondément attristé par la controverse linguistique qui a dévié l'attention du profond deuil des familles. Lundi, Air Canada avait mis en ligne une vidéo de M. Rousseau, presque exclusivement en anglais, offrant ses condoléances pour la mort de deux pilotes, dont l'un, Antoine Forêt, est un résident de Coteau-du-Lac, en Montérégie. Ah, le trompettiste Thiel Brunner, on l'aime beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu Tessier, à la mise en onde. On va se retrouver la semaine prochaine. Lundi, c'est Denis-Martin Chabot qui sera avec vous. Ici, Hélène Denis qui vous souhaite une belle fin de semaine. À mardi prochain.